Pour introduire ce moment, on prendra tout d'abord dans Luc 22, les versets 14 à 20. Luc 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » L'institution de la scène est décrite dans ce passage, après que Jésus ait indiqué à ses disciples qu'il allait souffrir. Il leur annonce que son corps va être donné pour eux et son sang répandu. C'est l'annonce des coups et de la crucifixion, et il les invite ensuite à continuer de prendre ce repas en mémoire de lui. Ceci doit nous faire à nouveau mesurer combien ce moment, répété chaque semaine, est au centre de notre vie chrétienne. À travers le pain et le vin, chacun de nous est invité à se souvenir, à recevoir ce don gratuit de l'amour de Dieu et à regarder à nouveau le sacrifice de Christ. « Faites ceci en mémoire de moi » doit nous rappeler ce que notre Seigneur a fait pour nous. Il a accepté d'être livré à ses accusateurs et son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. On le répète toutes les semaines, mais c'est nécessaire. Le moment de la scène doit aussi nous recentrer sur l'essentiel. Le salut ne vient pas de nos œuvres, quoi que nous fassions, mais de l'œuvre de Christ dans l'obéissance au plan du Père. Jésus savait ce qu'il attendait, et pourtant, il a donné sa vie volontairement. Son amour pour nous était inconditionnel, et il n'attendait rien des hommes à ce moment-là. Il n'a pas été une victime impuissante, mais il s'est offert volontairement, par amour, pour chacun de nous ici. Il a accompli ce qu'avaient annoncé les prophètes, et son sacrifice est parfait, il est suffisant et il est définitif. Ce moment de la scène doit nous rappeler que le péché a un coût et que Jésus a tout payé pour nous. Marc 10, verset 45 dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Il a payé toutes nos fautes. Et la scène appelle chacun de nous à venir participer à ce repas avec un cœur reconnaissant, une foi renouvelée. Le sang de notre Seigneur a coulé pour nous. Et pour que cela soit encore plus vivant ce matin, on pourra remettre devant nos yeux tout ce qu'il a subi. On prendra dans Matthieu 27, les versets 27 à 44. Versets que l'on connaît bien, mais qu'il est bon de relire. Matthieu 27, versets 27 à 44. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ». Si les rois d'Israël qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ce passage relate toutes les souffrances et humiliations qu'a subies notre Seigneur. Pendant ces moments, aucune aide, une absence totale de compassion, pas une parole de soutien. Jésus est seul face aux puissances des ténèbres qui se déchaînent pour que le plan de Dieu n'aboutisse pas. Ce moment est crucial. Si notre Seigneur n'avait pas persévéré, le plan de Dieu n'aurait pas abouti. Mais il va aller au bout du sacrifice pour notre salut. Au bout du sacrifice jusqu'à être abandonné de Dieu. C'est ce que l'on a au verset 46. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis dans ces derniers moments, on lira encore un passage où la parole montre les deux brigands crucifiés. On reviendra dans Luc, Luc 23, les versets 39 à 43. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Nous avons vu auparavant que les deux brigands l'injuriaient, c'est ce que l'on a lu tout à l'heure dans Matthieu. Ceci malgré le fait qu'ils soient tous les deux crucifiés aussi et voués à une mort certaine. Qu'ont-ils à gagner à agir de cette manière ? Rien. Mais ils sont aveuglés et sous l'emprise de l'ennemi. À côté, la foule se moque et insulte et ils se joignent à ce concert en remettant forcément en question la royauté de Jésus. Jésus, lui, ne répond à aucune de leurs injures et ne prononce aucune parole, ni pour les reprendre, ni pour les condamner. Et au verset 39, le premier brigand demande à Jésus de les sauver, mais il le fait en l'injuriant. C'est ce qui est dit ici, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Il le fait en l'injuriant et en le provoquant. Et c'est son compagnon d'infortune, touché par la grâce de Dieu, qui va lui parler en lui disant « Ne crains-tu pas Dieu ?» Ne crains-tu pas Dieu ? Jésus aurait pu dire ces paroles lui-même. On aurait pu imaginer que le Seigneur dise à ces brigands crucifiés « Ne craignez-vous pas Dieu ?» Car même à ce moment-là, ce n'est pas lui qui l'a dit évidemment, car même à ce moment-là, son amour pour les hommes est resté le même. Il va donner sa vie pour les pécheurs, c'est-à-dire pour tous les hommes, donc pour ces deux brigands aussi jusqu'à leur mort, jusqu'à leur dernier moment, il est là pour donner sa vie pour eux. Mais un va refuser d'entendre, aveuglé par l'ennemi qui doit lui montrer, entre autres, que celui qui se programme fils de Dieu est cloué à la croix comme lui. Il reste dans sa folie, ne craint pas l'Éternel, alors que la parole nous dit, Ecclésiaste 12, verset 15, « Crains Dieu et observe ses commandements. » Et Proverbe 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » L'autre brigand ne recherche pas d'excuses. Mais il reconnaît ses fautes en disant que c'est justice pour son crime. C'est la même signification que Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Lui reconnaît que s'il est pendu au bois, c'est normal, il a eu péché et il paye son péché. Il voit Jésus pendu à la croix, souffrant, le front blessé par la couronne d'épines, offert au mépris de ceux qui veulent sa mort. Mais lui voit Jésus comme fils de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour lui. Et il croit. En lui adressant cette requête au verset 42, avant de mourir, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il sait que Jésus va revenir dans son règne. Quel rappel pour nous du salut gratuit offert aux pécheurs. C'est un salut gratuit vraiment offert aux pécheurs. Il y a d'autres pécheurs dans la parole, mais là, ils sont crucifiés à côté de lui. S'ils sont crucifiés, c'est qu'ils ont certainement commis des crimes. Et Jésus va lui absoudre ses péchés en lui disant « Je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. » Ces deux brigands représentent les deux destins de l'humanité. La mort éternelle en rejetant le salut offert ou la vie éternelle en se repentant et en acceptant Jésus comme son sauveur. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre choix. À notre époque, notre Seigneur n'est plus cloué à la croix. Donc, tout peut paraître moins dramatique.
est moins urgent que pour ce brigand crucifié. Lui, il avait peut-être que quelques heures à vivre, alors que pour nous, on ne sait pas, mais on peut imaginer que c'est peut-être un peu plus long. Et cela peut générer de l'attentisme et une fausse perception de l'urgence d'accepter le salut offert. Mais refuser son offre de salut revient à se ranger avec ceux qui l'ont condamné à la croix. Soit nous l'acceptons comme notre sauveur, soit nous le rejetons. Il a tout payé pour que ce salut soit gratuit, et il n'y a pas d'autre voie. L'accepter comme son sauveur ou le rejeter. Alors nous allons partager ce repas en mémoire de lui. Remettons bien devant nos yeux tout ce qu'il a fait. Il l'a fait jusqu'au bout pour ces deux brigands, et il est toujours à nos côtés. Si certains n'ont pas encore fait le choix aujourd'hui, qu'ils ressentent bien ce moment où le Seigneur les appelle. Donc, disons, pour nous, remercions-le, louons-le de ce qu'il a fait, et puis essayons de nous rapprocher de lui à chaque fois, chaque jour. Pour ceux qui n'ont pas fait le choix, il suffit de lui donner, de leur donner leur cœur. On l'en prie. Seigneur, tu as remis devant nos yeux tout ce que tu as subi, tout ce que tu as fait pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons le salut. Seigneur, tu as remis aussi devant nos yeux les choix qui sont devant nous, choix qui sont faits ou pas encore faits. Et Seigneur, on te louer, te remercier d'être toujours présent à chaque moment, et puis de rappeler à chacun que tu as offert ta vie en sacrifice pour le salut éternel de quiconque croit. Amen.
Quand on regarde les termes qu'on emploie le plus dans notre vie de chrétien, c'est le mot « éternité », « vie éternelle ». Bien sûr, nous savons ce que ça veut dire. On veut le rappeler simplement parce que c'est un terme que nous pouvons comprendre mais pas réaliser. L'éternité, c'est une durée sans commencement ni fin. Notre intelligence ne peut pas. C'est totalement impossible. Il n'y a que notre esprit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre cela. Donc l'éternité, c'est une durée, comme on a dit, où il n'y a pas de commencement, pas de fin. Et l'éternité, c'est Dieu, lui-même. L'éternel, le Dieu d'éternité. L'éternité, c'est la personne de Dieu. Que de choses extraordinaires qui nous sont révélées ici. Et c'est Genèse 21, 33 qui nous dit ça. Le Seigneur Jésus est également le Dieu d'éternité, puisque vous savez que dans Hébreux 7, quand on parle de Melchisédek, il est comparé, il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Le Fils est bien sûr le Dieu d'éternité. Et lorsque le Dieu d'éternité a créé l'homme, il l'a créé semblable à lui, donc semblable au Dieu d'éternité. En Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'homme a eu une création, il a donc eu un début, mais sa vie ne devait jamais finir. Il était créé pour avoir une éternité devant lui et de vivre jusque toujours, toujours, ce qui sera notre cas, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire avec sa joie, avec sa paix, avec sa perfection également. C'était le plan de Dieu. Il a existé, ce plan, nous l'oublions quelquefois, bien sûr, puisque ce n'est pas notre cas. Mais, donc, on peut dire que pour Dieu, avant la création de l'homme, le temps n'existait pas, puisqu'il n'y avait pas de commencement ni de fin. Le jour et la nuit n'existent pas, ce nous sera dit dans l'Apocalypse, Dieu était et sera la lumière. Cette notion d'éternité, c'est bon de la repasser devant nos yeux, car c'est la notion, la réalité qui sera après. Pour toujours. Mais après le péché, bien sûr, nous le savons, eh bien, après ce péché que l'homme et la femme ont commis contre Dieu, l'état d'éternité a été retiré à l'homme et il a mis un terme à sa vie. Dieu avait mis en place à ce moment-là le temps, cette notion dans laquelle nous vivons, avec la naissance et la mort. Et Moïse dit, au psaume 90, Verset 4 et verset 10, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Et il dit, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. » Quelquefois, ça va un peu plus loin, mais pas beaucoup plus. Et nous avons, nous, en y réfléchissant, deux attitudes suivant les circonstances du temps de vie où nous sommes dans notre parcours. On va en prendre deux seulement. Notre réaction vis-à-vis du temps. La première réaction dans les épreuves, les difficultés, nous disons et nous ressentons que le temps me semble long en attendant la délivrance, en attendant l'exaucement. Nous, bien sûr, toute notre vie, nous avons connu ces choses. Et puis la seconde, à la fin de notre vie, ou presque à la fin, « Mon Dieu, comme le temps a passé vite !» Ce sont nos deux réactions vis-à-vis du temps. Pour certains, nous sommes bientôt prêts à dire la deuxième phrase. « Le temps a passé vite !» Mais Dieu veut nous amener à comprendre le temps qu'il nous donne suivant son temps à lui. Pendant un temps déterminé, et pour chacun de nous ici, personnellement. Le psaume 139, au verset 16, où David dit, nous connaissons bien et heureusement ce psaume, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Ah, cette phrase, comme elle est belle, parce que là, Dieu veut nous assurer, et ce matin nous réassurer, qu'il compte tous nos jours, et qu'ainsi, sachant si notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur en Jésus-Christ compte tous nos jours, alors nous pouvons rester dans la paix, nous pouvons rester dans la confiance, puisque c'est lui qui compte nos jours. Il est bon de nous rappeler les choses, et ceci nous amènera, en nous confiant en lui, à ne pas craindre non plus la mort, parce que la mort qui va nous faire cesser notre vie, Jésus l'a vaincue à la croix. Nous, qui sommes les enfants de Dieu, il nous est dit dans Hébreux 2, verset 15, « Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude de l'angoisse de la mort. C'est le roi des épouvantements, nous dit Job, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et ça le sera parce qu'ils savent intérieurement qu'il y aura la suite. » Mais pour cela, Dieu doit d'abord nous convaincre de péché, bien sûr, et pour la plupart, il l'a fait. Si quelqu'un ne l'a pas encore fait, on l'a entendu ce matin dans la prédication, qu'il puisse le faire ce matin, nous montrer la perdition éternelle si, pendant le temps de vie qu'il nous donne, nous n'avons pas reçu le salut par le sang de la croix. Et ce matin, nous avons vu l'exemple des deux brigands. Ça nous a beaucoup parlé. Il y en a un qui est en enfer, ça c'est sûr. Et on saura qui c'est quand on sera là-haut. Regrets éternels, mais c'est trop tard. Mais il y a l'autre qui est sauvé. Et il est sauvé à la dernière minute, parce que Jésus était là, là, pour l'amener par son amour à le reconnaître. Il ne s'est rien passé entre le Seigneur, ce matin on a vu, et cet homme, il n'y a pas eu de parole de la part du Seigneur dans son amour. Mais son regard d'amour a suffi à l'amener à lui. Et combien nous comprenons, comme nous dit Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Bien sûr, on l'a vu pour les brigands, mais pour nous, c'était pareil, et pour ceux qui sont autour de nous. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour nous, chrétiens, en repensant à ce qu'on a dit ce matin, cette notion-là, c'est le point le plus important de notre vie de chrétien. Non pas pour nous, nous sommes sauvés. Et encore une fois, si quelqu'un n'était pas, qu'il le fasse. Mais pour ceux qui sont autour de nous, nous qui avons cette réalité du salut par le sang de Jésus, sinon ce sera l'enfer, eh bien, nous devons savoir que le temps est compté aussi pour ceux que Dieu met sur notre route, et eux, ils ne le savent pas. Et nous qui le savons, nous devons donc demander à Dieu qu'il nous mette un lourd fardeau, je parle pour moi, de prière d'abord, de prière persévérante pour ceux qu'il met sur notre route. Ne pas négliger ces choses parce que ce sont nos voisins ou nos amis, mais savoir que s'ils ne sont pas sauvés, ils iront en enfer. Jusqu'au bout, pour que ceux qu'il met sur notre route n'aillent pas en enfer. Il nous amène donc la première chose pour cette notion du temps, de savoir que ceux qu'il nous confie, ils ont un temps de vie déterminé qu'ils ne connaissent pas, mais nous non plus, et que nous sommes responsables à notre niveau, comme Dieu le voudra, mais responsable d'être des témoins, de leur annoncer l'Évangile avant qu'ils partent. Et donc, cette notion du temps, il faut qu'on puisse, par la grâce de Dieu, en avoir bien conscience pour ceux qui nous entourent, ceux qui sont sur notre route. Nous avons souvent, et l'ennemi fait tout pour, de dire ben, ce sont nos amis, nos connaissances, et puis nous laissons aller les choses. Nous prions un peu de temps en temps, Mais c'est beaucoup plus que cela, puisque jusqu'à la dernière minute, le Seigneur était près de ce brigand. Il s'est converti à la dernière minute. Alors nous puissions avoir aussi dans notre cœur, dans cette notion du temps de ceux qui sont mis sur notre route, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Alors, ayons-nous cette connaissance dont nous venons de parler, eh bien, ayons à cœur d'être des ambassadeurs pour Christ, comme il nous a rappelé, la deuxième aux Corinthiens. Ambassadeurs pour Christ, afin que ceux qui nous a mis devant nous reçoivent le salut en Jésus-Christ. Et c'est notre fonction principale, on pourrait dire, nous nous sommes sauvés pour tous ceux qui sont autour de nous. Ce matin, revoyons que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Ayons dans le cœur vraiment la notion du salut de ceux qui sont, et que le Seigneur nous pousse dans la prière et le jour venu, pouvoir donner notre témoignage. Voilà ce qui était pour les autres, du moins pour cette notion de temps, combien nous en sommes responsables. Mais pour nous aussi, pendant le temps de notre vie, eh bien, Dieu déroule un plan pour chacun de nous, ses enfants qui sommes sauvés. Et le plan de Dieu, il est minutieusement préparé par notre Père Céleste. On a vu que David nous a dit, pour nous ancrer dans la certitude que tous nos jours sont comptés, il ne pourra pas en manquer aucun. Mais quand nous sommes dans la vie et que nous devons marcher jour après jour, le Seigneur nous a mis aussi des choses qui vont nous amener dans la paix et dans la certitude. Et il a un but en nous donnant le temps de notre vie et le temps qu'il va compter. Et ce but, nous l'avons vu vendredi soir. Comme quoi Dieu donne souvent des références qui concordent. Le but, c'est que pendant le chemin terrestre que nous avons, nous soyons transformés par le Saint-Esprit en la ressemblance de son Fils. Nous avons perdu l'éternité par le péché. Nous avons une route que Dieu nous prépare. Mais sur cette route, Son plan de cœur qui nous aime, c'est de nous transformer à la ressemblance de son Fils pour qu'arriver là-haut, nous puissions avoir cette vie éternelle en étant semblables à son Fils. Nous serons transformés là-haut, nous le savons, dans notre corps. Mais Dieu a un but pour nous, c'est une transformation permanente jusqu'à la fin de notre vie. On va prendre dans 2 Corinthiens, ça nous est dit, au chapitre 3, et on lira le verset 18, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Bien sûr, ce n'est pas nous qui pouvons offrir cette transformation. Mais c'est le but de Dieu que de gloire en gloire, nous soyons transformés spirituellement et dans notre vie, notre attitude, en la ressemblance du Seigneur Jésus. Ça, c'est le but de Dieu pendant le temps de notre vie. Et pour ça, il va nous donner une autre parole qui va nous servir, nous permettre de poursuivre notre chemin qu'il nous donne, sans nous décourager jusqu'au dernier jour de notre vie. Car il y aura des moments où nous serons découragés et où le diable fera tout pour nous décourager. Alors cette deuxième parole, on va la relire dans Romains 8, et nous lirons les versets 28 à 34. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On retrouve le même but donné par le Seigneur que dans 2 Corinthiens. Et ce but, Dieu le répète parce qu'il voudrait nous le communiquer, que dans le chemin de notre vie, c'est que nous ayons une transformation. Et cette transformation, elle est belle. Elle ne peut pas être faite par nous, mais le Seigneur, si nous lui obéissons, veut la faire. Que nous ayons en nous, qu'on nous reconnaisse pour avoir été avec Jésus, comme ça a été dit après dans les Actes. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne beaucoup de paroles pour nous encourager à continuer dans ce but qu'il veut faire de nous, être rendu semblable à l'image de Jésus. Donc, le diable essaie de nous faire passer notre vie en nous occupant de nos choses de la terre, et puis en sachant que nous sommes sauvés, et puis en venant au culte. Mais c'est beaucoup plus que cela, le but de Dieu pendant notre temps de parcours, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et c'est aussi sur cette parole, donc, que nous pourrons nous appuyer dans les circonstances qu'il permet, nos circonstances d'épreuve, de difficultés, de douleurs. Et nous comprenons alors que si la parole, avec ce que Dieu nous montre, est dans notre cœur, nous pourrons continuer à avancer en sachant qu'il est avec nous, qu'il a compté nos jours et qu'il permet aussi nos circonstances, que toutes choses concourent ensemble à notre bien. Oh, quelquefois, nous le savons, il nous faut du temps pour admettre que toutes les choses concourent. Mais le Seigneur fait ce travail petit à petit dans nos cœurs. Et il nous faut, pour nous, collaborer avec lui pour que cette transformation soit faite entièrement pendant le temps de notre pèlerinage terrestre. Et c'est pourquoi Dieu compte tous nos jours, parce que dans sa pensée d'amour, il veut que chaque jour puisse servir à cette transformation. Et pour que cette transformation de chacun de nous, à l'image de Jésus, ait lieu, alors Dieu va développer dans notre histoire, par des épreuves souvent, deux choses, c'est la patience et la foi. C'est les deux qualités principales qu'il va développer. Alors, celui qui en est l'exemple, c'est Abraham, évidemment. On sait qu'Abraham a marché 25 ans avec Dieu pour attendre cette transformation. Et son chemin, et qui nous est décrit, ça a été une longue transformation de 25 ans. Pour arriver à ce que Dieu voulait, qu'il serve d'exemple pour nous, dans Romains 4, on va le lire donc. Romains 4, on prendra au verset 16 à 25. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà où en est arrivé Abraham par la grâce de Dieu, afin que cet homme-là ait une transformation complète que Dieu voulait pour arriver à espérer contre toute espérance, par la patience et par la foi. Il fallait qu'Abraham en soit là pour servir d'exemple à nous qui sommes ses héritiers. Mais quand on connaît l'histoire d'Abraham, son parcours n'a pas été à ce niveau-là toujours. Il y a eu un chemin. Et on le sait que ce chemin, en Genèse 12, 7, il est dit, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité. » Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et puis, dans son chemin, sans demander en Dieu, le chapitre d'après, il va partir en Égypte. Puis là, ça ne se passera pas très bien. En Genèse 13, il part avec Lot. Et il se sépare de Lot. Toujours dans le chemin, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, et il repart. En Genèse 15, il est découragé, Abraham. Et il dit à Dieu que son héritier, ce sera Eliezer de Damas. Cette fois, c'est clair. Il était là, Eliezer, il n'y avait pas de problème. Non, ce n'était pas ça. On est loin d'Abraham qui a été transformé par la foi, par le temps, par la patience. Et l'Éternel va l'encourager. En verset 15, verset 1, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et au verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. La transformation avance. Abraham comprend que Dieu veut l'amener sur son chemin à lui. Et en Genèse 16, il y a une nouvelle chute. Cette fois, celle-là, elle sera sévère. Par l'intermédiaire de Sarah, qu'il envoie vers sa servante Agar, et c'est la naissance d'Ismaël. Catastrophe. Mais Abraham repart. On n'est toujours pas au niveau de la transformation de patience et de confiance, de la foi. Mais le chemin avance. Et en Genèse 17, au premier verset, l'ordre de l'Éternel pour Abraham est plus définitif pour son cœur. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Les paroles de l'Éternel progressent dans le cœur d'Abraham au fur et à mesure où Dieu se rend compte qu'il en a besoin. Et en Genèse 18, au verset 14, c'est sa dernière apparition avant Isaac, et c'est pour chacun de nous. Genèse 18, 14, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ?» Y a-t-il quelque chose qui soit impossible pour l'Éternel ? Ça, c'était pour Abraham, mais c'est aussi pour nous dans nos vies. Et la suite de la parole de l'Éternel à Abraham, « Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette époque, Sarah aura un fils. » Et là, une parole arrive de l'Éternel, « Au temps fixé, je reviendrai vers toi. » C'est-à-dire au temps que moi j'ai fixé, pas toi, Abraham. Et Abraham a mis 25 ans de chute et de départ à nouveau, où l'Éternel l'a encouragé pour arriver à cet état d'esprit où cette fois, il avait pu espérer contre toute espérance. Quel chemin ! Et comme nous sommes heureux de pouvoir partager ce chemin, c'est aussi le nôtre. Et c'est là que Dieu vous a amené. Dans toutes nos épreuves, toutes nos attentes, Dieu a un temps fixé, mais fixé par lui. Et pas par nous, pas par moi. Et c'est là mon problème. Parce que je n'ai pas eu beaucoup de patience dans mon berceau, mes proches peuvent le dire. Et le Seigneur nous a amenés tous à connaître ça, comme pour Abraham. Dieu ne permet pas que nous connaissions les temps fixés par lui dans nos épreuves. À quel moment il va répondre ? Et à quel moment il va répondre à nos exaucements de prière, à nos délivrances ? Il cache ce moment. Il cache, mais c'est pour un plus grand bien. Pour que nous puissions vivre par la foi, chaque jour, dans chaque épreuve, dans chaque attente, sans vouloir arracher nous-mêmes, comme l'a fait Abraham avec Agar, la délivrance que Dieu n'apporte pas encore. Voilà le chemin qu'il a donné pour Abraham, mais comme c'est notre Père dans la foi, c'est notre chemin à tous. Et c'est en développant, en chacun de nous, cette foi, cette patience, qui va nous rendre de plus en plus semblables à l'image de notre Sauveur. Et Jacques nous le lit, on va prendre dans l'épître de Jacques au premier chapitre. On lira les quatre premiers versets qui nous expliquent. Épître de Jacques, donc premier chapitre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Là, on arrive au bout des 25 ans d'Abraham, presque. Ce n'est pas d'emblée hein, que ça. On a un peu de vécu, on sait que ça. Mais c'est vrai ce que dit Dieu. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et sans faillir en rien. Ce qui nous rend parfaits, c'est notre patience et notre foi devant Dieu. Comme on a dit tout à l'heure pour la Sainte-Seine, ce n'est pas nos bonnes choses. Il en faut, mais ce n'est pas cela. C'est notre patience et notre foi. Et Pierre nous dit la même chose. On va prendre la première de Pierre. On lira au premier chapitre, les versets 3 au verset 7. Alors, première de Pierre, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » C'est notre héritage. Et ce matin, nous pouvons nous réjouir que bientôt, nous serons dans cet héritage céleste avec lui, pour l'éternité. Verset 5, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. » Puis on pourrait s'arrêter là, ce serait bien. Quoique, c'est le mot d'après. « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été trouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre a la même révélation que Jacques, la même révélation que Paul, afin que nous arrivions vers lui en ayant reçu cette transformation à l'image de Jésus. Et dans l'Épître aux Galates, au premier chapitre, verset 15, il est dit ceci, on va le prendre aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets, mais on va les lire ensemble. Épître aux Galates, premier chapitre, versets 15 et 16. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de me révéler. » Lorsqu'il plut, ça c'est la phrase importante. Lorsqu'il a plu à Dieu, c'est-à-dire lorsque Dieu a vu que le cœur de Paul était apte à recevoir cette révélation de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'il lui a fait cette révélation. Lorsqu'il plut à Dieu, ça me revenait toujours ces mots en disant, alors je me suis dit que c'est lorsqu'il plaît à Dieu. Il ne plaît pas à un moment donné pour nous faire, pas parce que ça lui plaît au sens faire plaisir, pas du tout, ça lui plaît parce qu'il sait que les circonstances dans nos vies sont prêtes pour qu'on reçoive une révélation supplémentaire de Jésus. Et lorsqu'il plut à Dieu, alors nous devons, je dois apprendre, à laisser toute la place à Dieu pour agir, jusqu'à ce qu'il décide qu'il peut me délivrer d'une épreuve, qu'il peut donner une bénédiction, ou qu'il peut la refuser pour aller plus loin, et pour agir, et ne pas le gêner dans ses mouvements, on pourrait dire. Ça, c'est une attitude intérieure qu'on obtient petit à petit, par le doute, par la crainte. Combien nous en avons ? Dieu veut les enlever pour qu'on puisse être dans la confiance jusqu'à ce que lui décide du moment. Lui laisser toute la place afin qu'il puisse nous répondre quand il lui plaît et pas quand nous aimerions nous. Ça, c'est quelque chose que peut-être la leçon la plus dure à apprendre. Et là, ça nécessite forcément la patience, évidemment, puisqu'on attend le moment de Dieu quand il lui plaira, et aussi la foi. Nous calculons, nous prévoyons que ceci doit arriver ou cela. Et il faut que ça arrive le plus vite possible pour nous. Toujours, c'est à peu près comme ça. Et le plus vite possible serait le mieux pour Dieu. Non, pour moi, pardon. Mais peut-être. On cherche toujours un petit peu. Hein. Mais nous oublions de laisser du champ à Dieu, comme on l'a dit, afin qu'il puisse intervenir au moment où il choisit pour nous, comme ça. Alors, essayons de demander maintenant au Seigneur de nous attendre à ce qu'il intervienne de la manière dont il lui plaît dans nos vies. C'est le vrai moyen de lui faire la place. Fermement. Et fermement, sur sa venue, il viendra quand il voudra. N'imaginons pas comment il le fera. Dieu peut se manifester à chaque instant dans nos vies, dans nos circonstances. Et il peut souvent nous surprendre, et nous l'avons vu souvent qu'il nous surprend. Nous ne pensions pas qu'il agirait comme ceci ou comme cela. Ayons seulement, dans tout le chemin que nous parcourons, dans toutes les situations qu'il met dans nos vies, rappelons-nous qu'il les fait concourir à notre bien. Rappelons-nous que si la chose tarde, elle viendra. La promesse s'accomplira quand il le décidera. Restons dans la paix pour le laisser seul agir. C'est un cantique qui dit cela, te laisser seul agir. Et encore pour être encouragé, au psaume 55, au verset 23, « Rejette ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. » Et cette promesse, « Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé, même si le temps dure et nous paraît si long. » Dans Luc 12, 7, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas. En relisant ce verset, je me dis, mais c'est comme si je le découvrais. Il compte tous les cheveux de nous tous. C'est Dieu. Et c'est vrai, tout ce qu'il nous dit. Il va dans le détail de nos personnes. Dans le psaume 121, versets 7 à 8, le psaume du voyageur, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Et ce psaume nous dit qu'il garde le départ de notre vie et l'arrivée de notre vie, le temps de notre vie, c'est marqué en toutes lettres. Alors soyons encore assurés et rassurés ce matin. Dieu nous connaît, il sait que nous avons reçu Jésus dans notre cœur, que nous sommes sauvés, et il veut nous amener dans chaque circonstance avec un but. Et quand nous savons qu'il a un but, on comprend qu'on peut avoir plus d'assurance et de nous transformer intérieurement. En cette image de Jésus-Christ, pour qu'on nous reconnaisse comme ayant été avec Jésus dans nos pensées, dans nos regards, dans l'amour que nous avons pour les autres. Et puis, pour ceux qui sont autour de nous, nous les attirerons aussi au Seigneur si nous avons cette transformation. Et c'est le but également. Voilà, quelques réflexions sur le temps qui passe.
C'est incroyable ce but du Seigneur de nous amener à l'image du Seigneur. Imaginez, j'y pensais quand Michel parlait, imaginez qu'on vous amène un jour une brouette et puis qu'on vous dise, il faudra m'en faire une Rolls. C'est impossible. Mais le Seigneur, on est des brouettes. Hein. Mais le Seigneur, c'est pas une Rolls, c'est immensément plus. Et il veut nous amener à sa ressemblance. Quel but. Il faudra des coups de marteau, c'est sûr. Alors, on peut le remercier de nous avoir choisis.
Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Père, nous voulons encore te remercier pour toute parole que tu nous as apportée. Tu nous as parlé du temps. C'est vrai que ce temps, c'est, comment dire, incompréhensible. C'est vrai que pour nous, il y a un début, une fin, mais l'éternité, il n'y a ni commencement, ni fin. Et nous avons chanté, Seigneur, en parlant du temps, chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi, dans le temps que tu as prévu pour moi, dans le temps que tu as prévu pour chacun de nous. Et je peux et nous pouvons encore te rendre grâce et te remercier de ta bonté et de ton amour. Et de prendre soin aussi, en ce temps, de nos frères et sœurs absents, de les conduire encore. Parce qu'eux aussi, chaque jour, à chaque heure, ont besoin de toi. Dans nos besoins. Merci et louange à toi. Amen.